Théologie fondamentale, Père Philippe, 23 décembre 1983, Saint-Joseph.
Nous allons entrer dans ce que représente cette étude de saint Thomas sur la prophétie. Donc saint Thomas précise, les charismes forment l'objet de notre présent propos. À ce sujet, il faut remarquer que parmi les dons gratuits, certains ressortissent à la connaissance, d'autres au discours, d'autres à l'action. Voyez bien la division des charismes, la structure des charismes, la connaissance, le discours et l'action. La connaissance, en tant que la connaissance, on la communique aux autres. Tous les dons qui sont relatifs à la connaissance peuvent être compris sous le nom de prophétie. Donc, prophétie relève de tous les charismes de la connaissance. La révélation prophétique, en effet, s'étend non seulement aux événements humains futurs, mais encore aux réalités divines, tant aux vérités qui sont proposées à la croyance de tous et qui sont du domaine de la foi, qu'aux plus hauts mystères qui sont l'apanage des plus parfaits et se rapportent à la sagesse. La révélation prophétique a aussi pour objet les substances spirituelles par lesquelles nous sommes poussés au bien ou au mal. Et c'est le don du discernement des esprits. La révélation prophétique s'étend encore à la direction des actes humains, c'est le don de science, ainsi qu'on le verra plus loin. Donc vous voyez que révélation prophétique prend chez saint Thomas une signification extrêmement vaste. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça, toujours se rappeler ça. Pas seulement les événements, vous voyez, comme on dit aujourd'hui, c'est un prophète, il annonce que demain, il y aura de l'orage. Hein. Et il annonce que cette année 84 qui commence, ça va y avoir des guerres, y avoir des tremblements de terre, des choses comme ça. Ça, c'est révélation des événements futurs. C'est ce qu'on appelle ordinairement un prophète. C'est pas ça pour saint Thomas. C'est beaucoup plus vaste. Le mot prophète au sens fort, c'est celui qui parle des réalités divines, qui creuse dans l'écriture le sens profond des réalités divines, tant aux vérités qui sont proposées à la foi, à la croyance de tous, qu'au plus haut mystère. Donc non seulement ce qui est objet de foi, mais ce qui est le contenu de l'expérience la plus intime au niveau mystique. Tout ça fait partie de la révélation prophétique. Ça va très loin. Alors, en plus, le discernement des esprits, savoir si vous êtes mu par un démon ou si vous êtes mu par un bon ange. Il ne faut pas se tromper entre Saint-Michel et puis de temps en temps le dragon. Hein. C'est Saint-Michel qui me pousse. Ben, c'est le dragon, tout simplement. Il faut faire le discernement des esprits. Arriver, et ça fait partie de la révélation prophétique. Et la révélation prophétique s'étend encore à la direction des actes humains, c'est-à-dire le don de science, la direction des actes humains. Vous voyez, c'est quand même encore quelque chose de particulier. Il faut comprendre tout cela. C'est ça la révélation prophétique. Il faut bien voir que c'est donc une signification très très vaste. Vous voyez, ce serait intéressant, hein, à mettre en parallèle avec la question sur la théologie. Parce qu'au fond, cette fameuse question sur la théologie, au début, la théologie est-elle une science, où saint Thomas parle de la révélation d'une façon commune, et constamment on a l'impression que saint Thomas confond le point de vue de ce que nous appelons, nous, théologie, et de ce que lui appelle théologie. C'est peut-être un parallélisme qui serait intéressant et qui éclairerait beaucoup que la signification du mot théologia chez saint Thomas a quelque chose de bien plus ample que ce que nous appelons théologia. Au fond, théologia pour saint Thomas, c'est tout ce qui est révélé et qui est reçu avec intelligence. Tout ce qui est révélé. Et ici, révélation prophétique, qui est à la source donc même de la foi, a quelque chose de bien plus vaste que ce que nous appelons, nous, révélation prophétique. C'est intéressant parce que ça montre que les mots, voyez, n'ont plus, ont perdu un peu leur vigueur. Hein. Ils se sont amenuisés. C'est un phénomène de fatigue. Ils se sont amenuisés. Alors qu'il faut peut-être essayer de redécouvrir à la source la signification profonde de ce que c'est que ces mots. Nous étudierons donc tout d'abord la prophétie et le ravissement, qui est un degré spécial de la prophétie. C'est intéressant pour entrer tous dans le ravissement. Alors, au sujet de la prophétie, quatre points retiennent notre attention. Premièrement, l'essence, de essentia eius. Alors, il faut prendre le mot essence là dans tout ce qu'il y a de plus général, hein. Surtout pas au niveau métaphysique, c'est-à-dire sa définition. C'est entendu comme ça, c'est un sens très très large. Hein. Essence, sa définition, ce que c'est, le ti esti, la prophétie, qu'est-ce que c'est? Sa cause, ça c'est très important, le mode de la connaissance prophétique et la division de la prophétie. Donc c'est très intéressant pour entrer dans tout le mystère de la prophétie. Source de la révélation, ou plus exactement, moyen par lequel Dieu nous communique sa vérité. Quant à l'essence de la prophétie, nous nous poserons six questions. La prophétie apparaît-elle à l'ordre de la connaissance? Appartient-elle à l'ordre de la connaissance? Est-ce que c'est une gnose, la prophétie? Est-ce que c'est de l'ordre de la connaissance ou est-ce que c'est de l'ordre de l'amour? Est-elle un habitus? C'est important de savoir si c'est un habitus. Parce que si c'est un habitus, ça dure. N'a-t-elle pour objet que les événements futurs contingents? Le prophète connaît-il tout ce qui peut être sujet de prophétie? Discerne-t-il ce qu'il saisit divinement et ce qu'il voit par son propre esprit? Le prophète peut-il porter sur le faux? La prophétie peut-elle porter sur le faux? Donc, vous voyez, il y a quelques questions très intéressantes, savoir si elle est infaillible par le fait même. A-t-elle un caractère d'infaillibilité? La prophétie est-elle infaillible? Alors à ce moment-là, il faudra se demander quelle différence y a-t-il entre la prophétie et l'infaillibilité du pape. Ce n'est pas la même chose. Alors, la prophétie appartient-elle à l'ordre de la connaissance? C'est la première manière de regarder ce charisme de la prophétie. Alors saint Thomas, dans l'objection, dit non, semble-t-il. On lit en effet dans l'Ecclésiastique que le corps d'Élisée, après sa mort, prophétisa. Il y a des corps qui prophétisent. Un petit peu comme les deux témoins d'Apocalypse. Bien. Et plus loin, on nous rapporte le même fait au sujet des ossements de Joseph. Or, après la mort, il ne demeure dans le corps, dans les ossements. Aucune possibilité de connaissance. Alors, si les ossements prophétisent, oui, ça, c'est gros, hein, comme question. C'est intéressant, toujours, ces grosses objections comme ça. On prend tout simplement un texte de l'Écriture, et puis on dit, alors, voici la réponse de saint Thomas. Il est écrit dans le premier livre des rois, celui qui aujourd'hui porte le nom de prophète était autrefois appelé voyant. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est la fameuse définition du livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 9, verset 9. Qui enim propheta dicitur odie, vocabitur olim videns. Le voyant. Et alors regardez dans le livre d'Amos, hein, c'est un des livres où on voit le mieux ce que c'est que le voyant. Or, la vision est un acte de connaissance. La prophétie appartient donc à l'ordre de la connaissance. Le prophète, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui connaît. La prophétie est premièrement et principalement un acte de connaissance, souligne saint Thomas dans le corps de l'article. Les prophètes connaissent en effet les réalités qui échappent à la connaissance ordinaire des hommes. Aussi peut-on dire que le nom de prophète est composé de deux mots grecs, pro, qui veut dire loin, et phanos, qui signifie apparition. Les prophètes voient apparaître ce qui est éloigné. Ce qui est très très loin pour les autres, le prophète le voit. Ce qui chez les autres est très confus, le prophète le voit. Voilà pourquoi, d'après saint Isidore, ils étaient nommés voyants dans l'Ancien Testament, car ils voyaient ce qui échappait aux autres. Et il percevait ce qui était enveloppé de mystère. Dans le paganisme, on donnait aux prophètes le nom de devins parce que par la force de leur esprit, ils devinaient l'avenir. C'était ça le devin, ils devinaient l'avenir, le voyant. Donc le prophète, c'est le voyant. Ça avant tout. C'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas, un voyant. Quand vous voyez ce que tout le monde dit, vous ne dites pas c'est un voyant. Tandis que quand vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas, vous dites qu'il a un regard perçant et qu'il arrive à découvrir des choses que les autres ne voient pas. Donc première définition, vous voyez. Et vous voyez, ça repose sur l'écriture, hein, tout simplement. Le prophète est premièrement et principalement primo et principaliter consistit in cognitione. Deuxièmement, la prophétie est secondairement un discours. L'apôtre écrit aux Corinthiens, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune et en vue de l'édification de l'Église. Ce que les prophètes instruits par Dieu connaissent, ils l'annoncent aux autres, afin de les édifier, ainsi que le dit Isaïe. Ce que j'ai entendu du Seigneur des armées, du Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. À la suite de saint Isidore, on peut donc considérer les prophètes comme des prédisants, car ils annoncent à l'avance les événements éloignés et prédisent la vérité sur l'avenir. Donc, c'est non seulement le voyant, mais c'est celui qui communique ce qu'il voit aux autres qui ne voient pas. Donc, il y a toujours un rôle du reste. Ordinairement, tous les charismes sont communautaires. C'est jamais pour un solitaire. C'est toujours pour le point de vue communautaire. Et donc, il y a ce double aspect de la connaissance et de la communication de la connaissance. Or, la communication de la connaissance se fait par le discours. La manifestation. La prophétie implique, troisièmement, le miracle, qui est comme la confirmation. En effet, les vérités que Dieu révèle et qui surpassent la connaissance des hommes ne sauraient être confirmées par la raison humaine qu'elles dépassent, mais par l'action de la toute-puissance divine. Comme le remarque saint Marc, les apôtres prêchèrent en tout lieu, le Seigneur les assistait et confirmant leurs paroles par les miracles qui l'accompagnaient. On lit aussi dans le Deutéronome, en ce qui concerne les signes et les miracles, il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Donc vous voyez que cette chose est très intéressante. On ne définit pas la prophétie par la connaissance spéculative. on définit la prophétie par la connaissance. Une connaissance capable d'être transmise aux autres, c'est le propre de la prophétie. Vous ne diriez jamais, je suis prophète, j'ai eu ce matin une grâce extraordinaire, mais incapable pour moi de le dire. Ce n'est pas de l'ordre prophétique, alors. C'est de l'ordre tout simplement d'une connaissance mystique intérieure. Connaissance mystique intérieure, je dirais, c'est ineffable, je ne peux pas le dire. C'est quelque chose de tellement profond, tellement intime, je ne peux pas le dire. Et ça ne doit pas être dit. C'est une expérience d'amour qui unit l'âme avec Dieu. Tandis que la connaissance prophétique implique une connaissance, la communication de cette connaissance et la confirmation de cette connaissance par un miracle, par un signe. Mais quelqu'un qui vous dit, par exemple, c'est des choses qui peuvent arriver, ça. Quelqu'un qui vous dit, moi, je suis appelé par Dieu à une mission, je dois absolument transmettre au monde entier que le Christ vient, qu'il est tout proche. Ça a déjà été dit. C'est sûr, mais ça demande d'être confirmé d'une manière plus précise. Alors on dira, est-ce qu'il y a des signes qui vous montrent que c'est bien ça, votre mission? Est-ce qu'elle est bien de Dieu? Oui, tel ou tel signe. S'il n'y a pas de signe, attendons. Attendons. Et on voit que c'est toujours très sage. Si on se précipite en disant, vous savez, soit ça tous les jours, hein. Des révélations privées, ça, c'est vrai, ça, faut bien vous le dire, c'est le pain quotidien, et même quelquefois c'est publié dans des revues. Tu vois. Alors, c'est très curieux, ça existe, des téléphones blancs, je crois, ou rouges, ça dépend comment vous les nommez, tu vois, avec la Très Sainte Vierge directement, et alors le téléphone, ils ont de la chance, ça coûte rien, c'est encore mieux. C'est le téléphone gratis avec la Très Sainte Vierge. Est-ce que c'est de Dieu ou pas de Dieu? C'est pas commode du tout, parce que si c'est vraiment de Dieu, vous n'avez pas envie du tout de dire non, c'est pas de Dieu. Et si c'est pas de Dieu, vous n'avez pas envie non plus de tromper les gens. Ils cherchent toujours le théologien, hein, pour avoir une petite autorité derrière eux. Parce que si le théologien dit « Ah oui, c'est sûrement de Dieu », ça donne une argumentation. C'est pas commun du tout. On est obligé d'être très respectueux, sauf si on voit vraiment des choses qui sont complètement falsifiées, qui ne sont pas de Dieu. Autrement, on est plutôt respectueux, on se tait. Puis on dit, attendons. Attendons. Et si on dit, ah, mais c'est très précis, Dieu veut être... Ouais. Un miracle. Attendons, le miracle, saint Thomas le dit, troisième chose, le miracle est là pour confirmer. Là, si vous êtes malade, demandez votre guérison immédiate. C'est une manière, ou bien celle de quelqu'un que vous connaissez, on verra bien. Et le miracle confirme normalement que c'est de Dieu. Très curieux, ça. Vous savez, quelqu'un comme Marthe n'aimait pas du tout qu'on la considère comme prophète pour dire, hein, je vous l'ai déjà dit. Elle renvoyait promener ces gens-là. Elle n'aimait pas ça. Et les vrais prophètes, ordinairement, ils disent des choses, ils sont obligés de les dire. Il y a des signes qui sont toujours très... Il peut y avoir des signes, c'est toujours très difficile d'interpréter les signes. C'est pas commode. Il faut à la fois beaucoup de respect, parce que certaines personnes peuvent très bien dire ça avec une très grande sincérité. Il peut y avoir une très grande sincérité, mais la sincérité n'est pas nécessairement la vérité. Alors, il faut faire attention. Il peut y avoir une part affective, on est dans un climat. Ça crée des climats à partir de là, on est crédule. C'est très, très curieux, ça. On pourrait faire un exercice particulier et privé vis-à-vis de certaines choses, ce serait intéressant, parce que c'est vrai, c'est des choses... Donc, vous voyez, plus on vit des moments de crise, plus les prophètes augmentent. C'est sûr. C'est normal. Plus il faut être attentif à ne pas tout approuver, plus il faut être attentif à ne pas tout rejeter. Il faut donc demander le discernement. Ce que dit saint Thomas, ça fait partie des grâces que Dieu donne. Alors revoyons maintenant la réponse aux objections. Vous voyez, le corps d'Élisée après sa mort prophétisa. C'est intéressant, dites voir comment saint Thomas dit ça. Hein. L'ecclésiastique donne le nom de prophétie à ces miracles dans le sens de preuve. C'est la troisième signification du mot. C'est merveilleux. Saint Thomas est laconique après avoir donné les trois significations du mot. Donc, des signes peuvent être dits miracles, peuvent être dits prophétiques. Et donc, quand le corps d'Élisée produit des miracles, il y a des corps de saints qui produisent des miracles. Ça arrive. On touche l'ossement du crâne de saint Thomas, de bête qu'on était, on devient intelligent. C'est merveilleux, tu vois. Alors, et si la bêtise était caractéristique, c'est un miracle. Si la bêtise était moins caractéristique, c'est peut-être tout simplement une expérience qu'on a faite qui vous a rendu un peu plus ouvert. Mais c'est peut-être. Vous voyez, on ne dira pas que le crâne de saint Thomas a prophétisé. Mais il a été source d'un événement miraculeux. Et c'est ça que saint Thomas dit, tout simplement. Donc quand vous lisez que le corps d'Élisée a prophétisé, il a été source d'un miracle. Deuxième objection. D'ailleurs, ainsi qu'écrit saint Paul, celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier. La prophétie est donc bien plutôt un discours qu'une connaissance. Dans le texte allégué, l'apôtre parle du discours prophétique. C'est le second sens du mot prophétique. Très simple. On voit très bien que le corps de l'article se construit en fonction de tout ça. De plus, toute perfection relative à la connaissance exclut la sottise et l'insanité. C'est mieux dit en latin, vous savez. C'était le père Ramirez qui disait, quand il faisait certaines critiques de certains livres que je nomme pas, il disait: j'aime mieux faire ces critiques en latin parce que je peux mieux dire la bêtise que quand je le disais en espagnol. Alors c'est cette omnis cognoscitiva perfectio excludit stultitiam insaniam, donc la sottise et l'insanité. Cependant, celles-ci peuvent se rencontrer avec la prophétie. Osée s'écrit en effet: apprends Israël que le prophète est fou en délire. La prophétie n'est donc pas une perfection qui relève de la connaissance. C'est merveilleux ça, Osée. Apprends Israël, et quand c'est le prophète lui-même qui le dit, hein. Prophète lui-même qui dit ça. Apprends Israël que le prophète est fou et en délire. Il est fou de Dieu, il est en délire. Ah, c'est pas commode hein, quand vous êtes en face d'un osé. Et osé aujourd'hui, où est-ce qu'on le conduirait? Et alors il voudrait justifier en disant qu'il est fou. Ça, c'est une manière très élégante de se justifier, disons. Alors saint Thomas répond: les prophètes qui sont fous et en délire ne sont pas des vrais prophètes, mais des faux. N'écoutez pas la parole des prophètes qui vous enseignent et vous séduisent, dit à leur sujet Jérémie. Ils vous annoncent la vision de leur propre cœur et non celle qui vient de la bouche de Dieu. Ça, c'est très beau. Comme discernement. Ils vous annoncent la vision de leur propre cœur. Nolite audire verba prophetarum qui prophetante vobis et decipiont vos, visionem cordis sui locontur, non deore domini. Le prophète parle de la bouche de Dieu. Il ne parle pas de son propre cœur. On lit aussi dans Ézéchiel, voici ce que dit le Seigneur, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et n'ont aucune vision. Donc saint Thomas est très catégorique. Le prophète non supponit, comme dirait en bonne logique, être prophète non supponit, fou, insensé. Je m'explique pour que vous compreniez, n'est-ce pas ? Non supponit, c'est-à-dire que la signification du prophète exclut la folie et l'insensé. Si je prends la prophétie au vrai sens de celui qui est illuminé par l'Esprit Saint. Parce que ce que vous dites du prophète, vous le dites de l'Esprit Saint. On ne peut pas dire que l'Esprit Saint est fou et insensé. Donc le prophète, vous ne pouvez pas dire qu'il est fou et insensé en tant que prophète. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je dis non supponit. C'est le terme le plus fort au point de vue logique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, être prophète ne peut pas impliquer dans sa signification être fou et être insensé. Quatrième objection. Enfin, si la révélation appartient à l'intelligence, l'inspiration semble se rattacher à la volonté, car elle implique une motion. Or, d'après Cassiodore, la prophétie est une inspiration ou une révélation. Il semble donc que la prophétie n'appartient pas plus à l'intelligence qu'à la volonté. Alors ça, c'est très intéressant à voir. La révélation, l'intelligence, l'inspiration, la volonté. On va voir comment saint Thomas va répondre. La prophétie requiert que la portée de l'esprit humain soit accrue afin de percevoir les réalités divines. C'est ce que veut dire ce texte d'Ézéchiel. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ça, c'est l'herméneutique de saint Thomas. Vous voyez bien cette phrase. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ézéchiel 2, verset 1. Et saint Thomas dit ceci, c'est tout simplement que la prophétie requiert que la portée de l'esprit humain, l'intentio, c'est intentio, il ne dit pas appetitus, hein. Prophetia requiritur cum intentio mentis elevetur ad percipienda divina. La prophétie requiert que l'intention de l'esprit du mince ou de la mince, parce que c'est, soit élevée pour percevoir les choses divines, soit accrue, c'est-à-dire élevée, afin de percevoir les réalités divines. Or, cette surélévation, cette élévation d'intention, se fait sous la motion de l'Esprit Saint. Cette élévation de l'intention se fait par l'Esprit Saint qui meut. Aussi, Ézéchiel poursuit, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Lorsque l'Esprit humain a sa portée accrue en vue de saisir les réalités supérieures, il perçoit les mystères divins. Voilà pourquoi Ézéchiel ajoute, « Et j'ai entendu celui qui me parlait. » Ainsi donc, la prophétie exige d'une part une inspiration, c'est-à-dire une surélévation de l'esprit. Vous voyez, c'est très curieux que saint Thomas, c'est dans ce dernière réponse où saint Thomas analyse le plus. Et il analyse à partir du texte d'Ézéchiel, en donnant son herméneutique du texte d'Ézéchiel. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il faut mettre ça en exergue au traité de la prophétie. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Oui. Au terme de ce premier article, dans la dernière réponse, saint Thomas nous montre ce qui est exactement dans le point de vue de la prophétie. Ainsi, la prophétie exige, d'une part, une inspiration, c'est-à-dire une surélévation de l'esprit. L'inspiration du Tout-Puissant donne l'intelligence, écrit Job. D'autre part, elle requiert une révélation, c'est-à-dire une perception des réalités divines. Donc elle requiert une révélation. Ad perceptionem ipsam divinorum. Donc une révélation pour percevoir une perception des réalités divines. Par là s'achève la prophétie, puisque la révélation fait tomber le voile d'obscurité et d'ignorance qui cachait les mystères. Suivant le mot de Job, Dieu révèle les choses cachées du fond des ténèbres. Oui, c'est très beau. Vous voyez Heidegger, hein, par en dessous. Dieu révèle les choses cachées du fond des ténèbres. Le dévoilement de l'être du fond du néant. Exactement ça. Alors, c'est tout à fait vrai de la révélation, mais ce n'est pas vrai de la connaissance de l'être. Je vous dis, il faut comprendre cette pensée heideggerienne, hein, beaucoup de pensées actuelles, c'est au fond une laïcisation de la pensée divine. Je suis persuadé que si vous prenez, en essayant de comprendre ce que c'est que l'inspiration prophétique, vous découvrez ce que représente pour Heidegger ce qu'est la connaissance philosophique. C'est ça. C'est au fond une révélation, un dévoilement. Le même dévoilement, c'est de l'ordre de la révélation. Toute révélation est un dévoilement. C'est un dévoilement. Un dévoilement qui se fait à partir des ténèbres. À partir du fond des ténèbres. Et c'est pour ça que ces prophètes, ces philosophes aiment tellement le livre de Job. Parce que le livre de Job est un livre, justement, qui met très fort en lumière cela. Le livre de Job, les prophètes, Ézéchiel, c'est très vrai. Et les poètes. Parce qu'on retrouve un style qui convient. Alors, c'est intéressant toujours de faire un petit peu un parallélisme. Vous voyez, ça nous aide à comprendre ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Alors, vous voyez bien que la prophétie exige une inspiration. L'inspiration. Mais quand même, c'est très important de comprendre que tout le traité de la prophétie présuppose toute la connaissance philosophique de la connaissance du facturé, connaissance artistique. L'inspiration. Il y a une inspiration humaine propre au poète. Puis il y a une inspiration divine propre au prophète. Mais pour bien comprendre ce que c'est que l'inspiration divine, il faut d'abord savoir ce que c'est l'inspiration humaine. C'est évident. L'inspiration humaine existe, hein. Il y a des poètes qui ont des inspirations. Tout homme inspiré est poète. Ça existe. C'est une connaissance, un type de connaissance particulier, l'inspiration. Donc, l'inspiration, c'est-à-dire une inspiration c'est-à-dire une surélévation de l'esprit. C'est une élévation. L'inspiration, c'est une élévation du mens, de la mens. L'élévation mentis, élévation mentis de l'esprit. C'est une élévation de l'esprit. L'inspiration divine. L'inspiration humaine n'est pas une élévation. Comparativement au Béotien qui est à côté de moi et qui n'y comprend rien du tout, c'est bien évident, n'est-ce pas ? J'ai inspiré aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai une connaissance que normalement je n'ai pas. Une certaine élévation, l'élévation de l'esprit. Alors ici, ça provient du Tout-Puissant quand il s'agit de l'inspiration divine et de la prophétie dont charisme. L'inspiration du Tout-Puissant donne l'intelligence. C'est très beau du reste, ces textes de Job, hein. Inspiratio omnipotentis dat intelligentia. L'inspiration du Tout-Puissant donne l'intelligence. Donc, si vous êtes inspiré de Dieu, mais vous êtes intelligent. Si vous êtes inspiré de Dieu et que vous restez dans un état de bêtise, ben, il y a des chances que ce ne soit pas de Dieu. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas de Dieu. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire « Ah, je suis inspiré de Dieu ». Et quoi ? Ah, je sais pas. Non, non. L'inspiré de Dieu, il sait. Dat intelligentia. Ça donne l'intelligence. Donc, premièrement, l'inspiration. Deuxièmement, elle requiert une révélation. L'inspiration implique une révélation, c'est-à-dire une perception. Alors ici, c'est le second point, révélation, quantum ad ipsam perceptionem. La perception. Une révélation qui implique une perception des choses divines. En quoi s'achève la prophétie ? La prophétie s'achève donc dans cette perception. Inspiration, révélation. C'est à l'intérieur de l'inspiration qu'il faut découvrir cette révélation, ce dévoilement. Une révélation, c'est un dévoilement, une perception d'une chose qui avant n'était pas connue. Dieu révèle les choses cachées du fond des ténèbres. Donc voilà ce que représente la prophétie. Inspiration, révélation, les deux. Et il faut les deux. Une élévation de l'esprit. Ça, c'est très important de comprendre. L'inspiration implique une élévation de l'esprit, comme une inspiration. Et cette élévation de l'esprit fait que je suis capable de percevoir, de saisir, percevoir c'est saisir, discerner des choses qu'avant je ne pouvais pas. Donc, toute prophétie implique une nouvelle connaissance. C'est une connaissance, c'est de l'ordre de la connaissance. Intéressant. Donc, fondamentalement, la prophétie est reçue par l'intelligence. Et donc, la prophétie va me permettre de connaître l'appétit naturel de l'intelligence. Radicalement. Forcément. Il y a des prophètes, il y a eu des prophètes, et ces prophètes m'ont montré jusqu'où l'intelligence humaine était capable d'aller. Et c'est assez beau de voir ça. Il y a comme une espèce de développement, une élévation. L'élévation de l'intelligence, l'intelligence du mince. Donc, ça actue l'intelligence et ça lui permet d'aller plus loin. Donc, je crois que ça n'a pas tellement de difficultés, mais retenez au moins ce que saint Thomas nous dit dans le corps de l'article et puis dans cet ad quartum qui est tellement beau. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Mais je relis le début. La prophétie requiert que la portée de l'esprit humain soit accrue afin de percevoir les réalités divines. C'est ce que veut dire ce texte d'Ézéchiel. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Or, cette surévélation de la capacité intellectuelle se fait sous la motion de l'Esprit, sous la motion de l'Esprit Saint. Aussi, Ézéchiel poursuit, l'Esprit entre en moi et me fit tenir sur mes pieds. Lorsque l'esprit humain a sa portée accrue en vue de saisir les réalités supérieures, il perçoit les mystères divins. Donc la prophétie se réalise dans cette perception. Il perçoit, perception. Vous voyez que ce sont tous des mots qu'ordinairement saint Thomas n'utilise pas beaucoup dans l'analyse philosophique de l'intelligence. Et tous ces mots sont des mots qui sont beaucoup plus proches de ce que la psychologie retient aujourd'hui. C'est très très curieux ça. Et c'est intéressant. Percevoir, saisir, surélévation, dévoilement. Là on est en pays connu. Hein. C'est très simple. On voit très bien ces choses-là. Mais il faudrait peut-être commencer de lire saint Thomas par le traité de la prophétie. Elle a dit, mais c'est curieux, c'est très proche, on conçoit très bien ça. Puis alors petit à petit, arriver à la cuidité, alors, ça, c'est très très loin. C'est quand saint Thomas, c'est dire l'intelligence cuiditative. Mais remarquez que tout ça se tient, c'est ça qui est intéressant. La prophétie est-elle un habitus? À première vue, on le croirait. Car d'après Aristote, il y a trois catégories d'êtres dans l'âme, la puissance, la passion et l'habitus. Or, la prophétie n'est pas une puissance, sans quoi elle serait dans tous les hommes, puisque les puissances de l'âme leur sont communes à tous. Elle n'est pas non plus une passion, car les passions appartiennent aux facultés affectives, ainsi qu'il a été établi ailleurs, et l'on vient de dire que la prophétie relève surtout de la connaissance. La prophétie est donc un habitus. C'est assez gros, là aussi. Vous distinguez trois aspects. Toute connaissance n'est pas un habitus. Vous voyez ce qu'on pourrait tout de suite dire. Hein? Toute connaissance n'est pas un habitus. Alors, saint Thomas répond. Le commentateur d'Aristote définit l'habitus, ce par quoi un être agit quand il le veut. Or, personne ne peut user de la prophétie à son gré. Vous distinguez tout de suite là un vrai prophète d'un faux prophète. Un prophète qui dit, moi je suis prophète, il suffit de m'asseoir sur cette chaise, puis là, je prophétise. J'en ai vu comme ça. C'était suffisant pour comprendre qu'il n'était pas prophète. Il suffit de m'asseoir sur le trépied, vous savez, c'est sur le trépied. Or, personne ne peut user de la prophétie à son gré. Saint Grégoire observe en effet à propos d'Élisée, comme Josaphat s'inquiérait des événements futurs et que l'esprit de prophétie faisait défaut à Élisée, celui-ci fit jouer de la harpe afin que l'esprit de prophétie descendît en lui grâce à la psalmodie et remplit son intelligence des réalités futures. Après chaque office, vous êtes dans un état de prophétiser. N'oubliez jamais ça. Grâce à la psalmodie, on est capable. La prophétie n'est donc pas un habitus, puisqu'il faut l'aide de la psalmodie. Donc ce n'est pas un habitus. Alors, réponse de saint Thomas. Comme le dit saint Paul, toute manifestation de connaissance suppose une lumière. Lumière corporelle pour une vision corporelle, lumière intellectuelle pour une vision intellectuelle. Bref, il faut une proportion entre la lumière et ce qui fait voir, comme entre une cause et son effet. Dès lors, puisque la prophétie consiste à connaître des vérités qui sont au-delà de la raison naturelle, il faudra qu'elle bénéficie d'une lumière qui dépasse la raison naturelle. Aussi le prophète Michée dit-il, « Lorsque je suis dans les ténèbres, c'est le Seigneur qui est ma lumière. » Or, la lumière peut exister de deux manières dans un sujet, à l'état de forme permanente, telle la lumière corporelle dans le soleil et dans le feu, par mode d'impression passagère. Donc, per modum formae permanentis, per modum cuius dam passionis, sive impressionis transeuntis. Donc, soit par mode de forme permanente, par mode d'impression passagère, telle la lumière dans l'air. Et la lumière prophétique n'existe pas dans l'intelligence du prophète à l'état de forme permanente. Autrement, il faudrait que le prophète eût toujours la faculté de prophétiser. Ce qui est manifestement faux. Saint Grégoire dit en effet, à propos d'Ézéchiel, quelquefois l'esprit de prophétie fait défaut au prophète, et il n'est pas toujours à la disposition de leur intelligence, afin qu'ils reconnaissent, quand ils ne l'ont pas, qu'ils ne peuvent l'avoir que par un don lorsqu'ils l'ont. Et voilà pourquoi Élisée disait au sujet de la Tsunamite, « Son âme est dans l'amertume et le Seigneur me l'a caché, ne m'a pas fait connaître. » Et voilà la raison de ce mode d'être passager. La lumière intellectuelle qui existe dans un sujet à l'état de forme permanente et parfaite perfectionne l'intelligence.